Somme 2. Ce matin, nous allons voir un sujet qui s'est imposé à moi depuis que j'ai vu les informations mardi. Oui, et j'avais presque envie, d'ailleurs, de faire la liste de ce qui s'est passé dans la semaine. Ce dont nous sommes informés. Ce que les journalistes peuvent transmettre. Parce que vous savez qu'il y a des pays en pleine dictature où les journalistes sont interdits et des choses bien plus graves que ce dont nous avons connaissance s'y produisent. Mais j'avais presque envie de faire une espèce de listing, voilà, au Brésil, inondation, coulée de boue, 500 morts ou plus. Et ainsi de suite, émeute ou soulèvement, hein, en Tunisie, 70 morts ou plus, etc. On pourrait faire la liste. Hein, un homme qui perd la tête à cause d'un crédit, hein, il tue sa mère, sa femme et sa fille. Et non mais c'est profondément grave. Et ce matin, quand j'entendais, avant le culte, des frères et des sœurs louer Dieu parce qu'il règne, combien je me réjouissais, parce que si nous sommes dans une attitude de victoire, c'est parce que Dieu nous a parlé et que Dieu nous a annoncé ce qui arriverait. Et il a dit, quand vous verrez ces choses, quand il y aura de l'angoisse et de la terreur sur la terre, redressez votre tête, car votre délivrance est proche. Et je vous avoue que particulièrement cette semaine, je me suis réjoui, parce que tous les chrétiens, tous les contacts que j'ai eus avec des chrétiens, ont été des entretiens de victoire. Des frères et des sœurs qui ne sont pas déstabilisés par ce qu'ils entendent ou par ce qu'ils voient, qui ont obéi au Seigneur, qui a dit quand vous verrez ces choses, que votre cœur ne se trouble pas. Il faut que ces choses arrivent. Et ce ne sera pas encore la fin, il faut qu'il... Et on va voir des choses plus graves. Mais il n'y a pas besoin d'être un prophète pour expliquer ces choses. Elles ont été prophétisées. Nous bénissons le Seigneur pour le salut de nos âmes au calvaire. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les prophéties qui nous permettent de redresser notre tête et de ne pas nous affliger. Et si nous avons de la peine, nous la déposons aux pieds du Seigneur. Si nous avons des fardeaux, nous les déposons. Nous devons vivre dans la victoire, mes frères et sœurs. L'Église du Seigneur Jésus-Christ doit vivre dans la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Nous devons vivre dans la victoire. C'est presque un commandement de choisir d'obéir à Dieu. Recevez mes instructions, a dit Jésus. Voilà, le problème, il est là. Il n'est pas allé écouter une prédication de temps en temps. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Recevez, prenez mon joug. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Si vous étiez attentif à mes commandements, votre bonheur serait comme les flots de la mer. Quand Jésus dit, mais celui qui porte du fruit, en parlant dans la parabole du semeur et des terrains, celui qui porte du fruit, c'est celui qui écoute la parole avec un cœur honnête et bon. Celui-là, il porte du fruit. Et nous sommes là ce matin pour entendre quelque chose. Ça, il y aura des instructions, peut-être quelques commandements, des promesses. Mais qu'importe. Il faut saisir la pensée de Dieu pour vivre le temps que nous vivons à la gloire du Seigneur. Dans le psaume 2, il est fait mention au tumulte parmi les nations. On y est en plein dedans. On y est en plein dedans. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lèguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Regardez bien ce qui est écrit. Celui qui siège dans les cieux. Oui, ça veut dire que Dieu règne. Ça ne veut pas dire que Dieu rit comme nous, on rit. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que Dieu n'est jamais impressionné par tout ce qui se passe. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez, regardez bien, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Et cette semaine, sérieusement, comme chacun de vous, en regardant les informations, chaque fois me revenait un verset d'un psaume, l'Éternel règne. Il règne. Il règne au siècle des siècles. Dieu a toujours régné. Nous, on est en train de se poser des questions. Est-ce que Dieu régnait lorsque la France connaissait des moments d'abondance? Oui. Est-ce que Dieu régnait lorsque la France a connu des siècles de peste? Est-ce que Dieu régnait quand la France était touchée par la peste? Oui. Dieu règne au siècle des siècles. Et nous pourrions prendre le temps, ça serait très 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 intéressant, de prendre tous les textes où il est dit que c'est à Dieu qu'appartient le règne. Que Dieu règne en toutes choses. Notre Père se termine avec cette grande louange, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et les chrétiens ne doivent pas se laisser piéger par tout ce qui se passe. Que les gens du monde soient effarés, que les gens du monde soient angoissés, je comprends. Ils ne le seraient pas, je ne le comprendrais pas. Mais les chrétiens, ils savent où ils vont. Et je voudrais lire avec vous un verset, et je vous prie de bien vouloir le méditer, j'y ai souvent fait allusion. Mais, s'il vous plaît, frères et sœurs, prenez au sérieux la lecture que l'on va faire maintenant, saisissez-la comme une promesse de Dieu que vous allez graver dans votre cœur, écrire avec un burin, comme dit le Seigneur, je les écrirai dans leur cœur, je les graverai. Dans Jacques, au chapitre 1er, le Seigneur nous demande une certaine attitude de cœur. Combien je voudrais, mes frères et sœurs, que ce matin vous ne vous rappeliez que de ça, de ces quelques versets que nous allons lire maintenant. Si vous oubliez toute la prédication, ce n'est pas bien grave. Mais si vous gardez ce que l'on va lire, et bien sûr un petit peu essayer de retenir quelques commentaires, vous pourrez être dans une véritable victoire. L'Apocalypse signale à toutes les églises à celui qui vaincra. Et il y a une attitude de cœur. On n'est pas vainqueur parce qu'on dit « Seigneur, à moi vainqueur ». C'est pas parce que c'est comme quand on chante « Règne à moi ». Hier, avec les frères, on parlait des chants. Des chants qu'il faudrait, certains chants qu'il faudrait corriger. « Règne à moi ». Allez, c'est une réunion de responsables. « Règne à moi ». Est-ce que ça veut dire quelque chose? À quoi ça sert que je chante « Règne à moi » si j'obéis pas à Dieu? Mais si j'obéis à Dieu, automatiquement, Dieu règne. Vous comprenez? Mais si je chante « Règne à moi », je chante bien. Il n'y a que certains. Mes frères, à quoi ça sert de chanter certaines choses? « Règne à moi » si j'obéis pas à Dieu. Et c'est pareil la prédication. Il faut que je puisse dire, mais où j'en suis de ce verset qu'on va lire? Regardez bien ce verset. Ce verset, si on le vit, ça peut même amener, ça peut précipiter un réveil dans une église. Je le pense, je ne l'explique pas, mais je le pense. Jacques chapitre 1er, verset 2. Mes frères, alors ça s'adresse à tout le monde et aux sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Bon, j'en parlerai pas, mais il faut que l'épreuve soit vécue par la foi, c'est évident. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu, on le voit dans d'autres textes, nous demande de rendre grâce en toutes choses. Rendez continuellement grâce. Dieu, ce matin, pour amener des chrétiens dans une vie de victoire, vous rappelle que nous devons rendre grâce. Dieu se réjouit quand on lui rend grâce. C'est comme ça. Pourquoi? Eh bien parce qu'on l'a lu. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Quand on rend grâce à Dieu, est-ce que ce n'est pas un signe de victoire? Seigneur, merci. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Oui, heureux tous ceux qui se confient en lui. Les fondements sont renversés. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et ce qui s'est passé cette semaine, si je ne me trompe pas, ça devrait faire boule de neige. Dans bien des pays, croyez-moi. Et pas forcément, ça peut tourner en bien comme en mal, croyez-moi. Croyez-moi, mais ça c'est autre chose. Mais quand on dit à Dieu merci, vraiment merci, il a vu le Seigneur comment on dit merci ce matin. Comment vous avez dit merci quand vous avez pris le pain et le vin. Si vous l'avez dit, ah, le frère à côté il a dit merci, alors je merci. Ou si vous l'avez dit parce qu'au plus profond de votre cœur, mais vous êtes bouleversé. Parce que ce pain et ce vin représentent tellement de choses pour vous. Merci Seigneur. Vous savez, hier soir j'étais invité à un mariage. Ce sont des amis qui sont venus au Seigneur, ils ont abandonné, puis maintenant ils mettent leur vie en règle avec Dieu, alors ils se sont mariés. Et je pensais, pendant que je prenais le pain et le vin, c'est sérieux ce que je vous dis, il y avait du foie gras et c'était excellent, excellent. Il y avait du poisson, c'était excellent. Mais franchement, devant Dieu, il m'entend. À choisir, j'ai préféré ce petit repas-là que le repas d'hier soir. Dieu sait que je n'exagère pas. Il n'y a pas plus grand que d'être sauvé. Il n'y a pas plus beau que d'être au Seigneur. Et de se retrouver dans un lieu de culte avec des frères et des sœurs et de dire merci, c'est oui, merci pour ce repas. Bien sûr qu'en quantité, j'avoue que ce n'est pas le plus grand. Mais en qualité, n'est-ce pas le plus grand repas de la semaine? Ce merveilleux repas. Quand Dieu voit un homme qui dit merci, merci pour cette épreuve que je traverse, Dieu voit que nous voulons dépendre de plus en plus de lui. Dieu voit qu'on veut que ce soit lui qui dirige. Quand on loue Dieu, on confesse que c'est lui qui gouverne. Et si nous voulons être de véritables chrétiens, de véritables disciples, il faut qu'il y ait beaucoup de merci, plus que de donne. Vous faites partie de quelle catégorie? Vous pouvez répondre, ce n'est pas une question piège. Vous faites partie de ce chrétien qui dit donne, donne, donne. Ou vous faites partie de cette catégorie de chrétiens qui disent merci, merci, merci Seigneur. Un chrétien qui n'est pas satisfait. Un chrétien qui ne vit pas dans les actions de grâce. Un chrétien qui ne cède pas à ce que l'on vient de lire. Est un chrétien qui passe à côté de quelque chose. Est un chrétien qui n'a pas compris quelque chose. C'est pour ça qu'il faut le répéter ou l'enseigner. C'est un chrétien qui n'a pas accompli ce qu'étaient les bienfaits de Dieu. Vous en avez eu des bienfaits de Dieu depuis ce matin? Est-ce que vous trouvez qu'il y en a eu des bienfaits de Dieu? Eh oui, il y en a des bienfaits de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu nous demande de considérer toutes les épreuves. Et si nous ne cédons pas aux instructions, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Comment un chrétien peut-il vivre dans la victoire? Comment un chrétien peut-il obtenir le repos? Le repos, Jésus a dit, venez à moi, vous tous, et je vous donnerai du repos. Mais il dit, recevez mes instructions. Comment un chrétien qui se met en porte-à-faux avec le texte que nous venons de lire, avec les prophéties de Jésus, qui a dit, mais non, que votre cœur ne se trouble pas. Les chrétiens sont toujours troublés. Je le répète, que les païens soient troublés, c'est tout à fait humain. Et heureusement, parce qu'ils seraient presque inconscients s'ils n'étaient pas troublés. Mais un chrétien, il n'est pas troublé, il est peiné, parce que quand il voit 500 personnes qui ont péri d'un déglissement de terrain, on se dit quand même que c'est triste. On n'est pas indifférent. Seigneur, bénis les familles. On voit des gens qui ont perdu toute leur famille. On ne peut pas dire, eh ben, c'est prophétisé, c'est comme ça. Non, Seigneur, que ces épreuves amènent plusieurs à se tourner vers toi. Hein? Mais quel commandement? Mes frères, mes sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez traverser. Bien sûr qu'on n'est pas... On n'est pas maso et on n'aime pas les épreuves pour avoir des épreuves. Réjouissez-vous de vos épreuves, pas des épreuves des autres. Vous m'avez compris? Pleurez avec ceux qui pleurent. Lundi, on a pleuré avec ceux qui pleuraient. Eh bien, c'est bien. Hier, on s'est réjoui avec mon épouse de chrétiens, de rétrogrades qui reviennent à Dieu, qui mettent leur... C'est ça. Ne vous réjouissez jamais des épreuves des autres. Réjouissez-vous des vôtres. C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Regardez comme un sujet de joie complète. Expliquez-nous, monsieur Gau. Expliquez-nous. Regardez comme un sujet de joie complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Les diverses épreuves. Les diverses épreuves, ça touche tous les domaines de notre existence. Toutes les situations que l'on peut traverser, ça touche même notre foyer. Est-ce qu'on peut avoir des épreuves dans le foyer, dans le couple, dans la famille? Est-ce qu'on peut avoir des épreuves dans l'église? Ah oui, il y a des chrétiens, dès qu'ils ont une épreuve dans l'église, ils sont contrariés, c'est pas... Ça peut arriver. Dieu peut permettre une épreuve. Dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail, dans tous les domaines. Réjouissez-vous des diverses épreuves. Alors ça ne veut pas dire, je répète, qu'on est maso. Mais c'est une attitude de cœur. Seigneur, je comprends pas ce qui se passe. Mais je te fais confiance. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. On ne va pas jouer les hypocrites. Je ne comprends pas, mais je choisis de te faire confiance parce que tu es Dieu et que tu règnes. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Lamentation de Jérémie, on va voir quelques raisons pour lesquelles il faut pour comprendre ce qu'on lit. Parce que c'est vrai que on peut le vivre simplement par la foi. Seigneur, tu me demandes de me réjouir. Bon, je me réjouis, d'accord, mais je pense que ça nécessite quelques explications. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Alors, il y a une question, c'est une question, qui dira? Alors, qu'est-ce que vous allez dire de ce qu'on va lire? Qu'est-ce que vous en dites? Jérémie, Lamentation 3, 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et de la même manière qu'on n'a pas à se réjouir des épreuves des autres, on n'a pas à se plaindre des péchés des autres. Si on a, plaignons-nous de nos péchés. Pourquoi? Parce que Dieu ne règne pas sur nos péchés. C'est pour ça. Dieu est un Dieu qui règne. Mes frères et sœurs, il faut que nous le comprenions. Dieu règne de toute éternité. Il contrôle tout. Si les chrétiens ne croient pas cela, parce qu'il y a des chrétiens qui ne le croient pas. Dieu n'est pas un Dieu qui subit. Dieu n'est pas un Dieu qui dit, oh, qu'est-ce qui se passe là-bas au Brésil? Oh, je n'avais pas prévu cette secoue. Est-ce que vous imaginez un Dieu? Ce ne serait pas Dieu. S'il est tout puissant, c'est qu'il sait tout et qu'il peut tout. Dieu ne passe pas son temps à contrôler les effets maléfiques de Satan sur la terre. Dieu règne sur toute chose. Qui dira? Oui, il y a des choses qui arrivent, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Vous savez, je fais juste une allusion. Ce qui se passe en Tunisie, qu'est-ce qui peut se passer derrière? Ça peut amener soit l'islam, soit la démocratie. Ça peut soit accélérer certaines choses, soit les freiner. Mais est-ce que vous croyez que Dieu, il sait ce qu'il doit faire? Il règne sur tout. Il règne sur toute chose. Je vous dis, bénissez Dieu et louez-le. Et si vous devez vous plaindre, plaignez-vous de vos péchés, des vôtres. Que chacun se plaigne de ses péchés, parce que Dieu, je le répète, ne règne pas sur le péché. Vous connaissez l'histoire de Job? C'est qui régnait dans cette affaire? C'était le diable qui s'est pointé devant le trône de Dieu et qui a dit, voilà, tu vois, afflige-le, fais ci, fais ça. Qui c'est qui régnait dans l'affaire? Vous croyez que Dieu savait que cette histoire, elle allait fortifier des millions de chrétiens au cours des siècles? Est-ce que Dieu le savait? Mais bien sûr! Bon, quand Job a commencé à traverser cette épreuve, il ne devait pas savoir que le 16 janvier 2011 à Toulouse, on parlerait de lui, vous croyez? Mais Dieu règne. Il a tout perdu. Tout. Tout perdu. Tout. Absolument tout. Et même sa santé. Est-ce que Dieu était derrière? Il y a des gens qui disent non, c'est le diable qui était derrière. Oui, l'intention venait du diable. Mais l'autorisation venait de Dieu. Et les conséquences de cette histoire sont extraordinaires pour l'histoire de l'Église. Et une des raisons pour laquelle un chrétien doit se réjouir des épreuves, c'est parce que Dieu n'est pas étranger à notre épreuve. Est-ce que Dieu était étranger à l'épreuve de Job? Même si ses trois amis, pendant longtemps et très longtemps, lui ont dit « Mais non, Dieu n'est pas avec toi. Si tu étais juste, mon pauvre, tu ne serais pas dans cet état. Mais Dieu t'a abandonné. » Et c'est pas vrai. Vous avez vu les trois amis de Job, les spécialistes? Pourtant, ils ont dit des choses bonnes, mais c'était des bonnes choses, mais pas dites au bon moment. Voilà, le livre de Job, il y a plein de bonnes choses. Voilà, c'est comme si on disait à quelqu'un qui est dans le deuil, mais ne pleure pas. Réjouis-toi dans le Seigneur. Est-ce que c'est écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur » Mais ce n'est peut-être pas le bon moment, voyez. Mais les amis de Job, ils ont fait ça tout le temps. Tout ce qu'ils ont dit, c'était vrai, mais ils l'ont dit au mauvais moment. Parce qu'il ne comprenait pas, parce que sa femme ne comprenait pas, parce que personne ne comprenait. Et même Job ne comprenait pas. Mais Dieu, il était derrière tout ça. Pourquoi Jésus a dit, les cheveux de votre tête sont tous comptés? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça ce jour-là? Il ne savait pas quoi dire? Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça pour nous montrer qu'il règne sur tout et sur chaque détail de notre vie. Quand il dit, pas un passereau ne tombe sans qu'il ne le veuille, c'est pour nous montrer que Dieu contrôle tout dans les cieux et sur la terre. Un passereau qui tombe, un moineau qui tombe. Dieu contrôle tout sur la terre. Et la première chose qu'un chrétien doit faire, c'est de dire merci. Ça m'est arrivé, ça ne me plaît pas. Mais Seigneur, je te dis merci. Où en êtes-vous, mes frères et sœurs, ce matin? Est-ce que vous croyez que quand vous vous approchez de Dieu et que vous dites « Seigneur, tu vois ce qui m'est arrivé ?» Est-ce que vous penseriez un moment que Dieu va dire « Ah bon, j'étais pas au courant. » Non mais, avouez qu'il y a des chrétiens, quand ils prient comme si Dieu n'était pas au courant. Je pourrais vous donner des témoignages et vous ririez beaucoup. Mais ce n'est pas quand même le but. Il y a des gens, quand ils prient, ils informent Dieu. Tu vois, Seigneur, cette personne, tu vois qui c'est, Seigneur? Tu dois voir cette femme à qui j'ai parlé de toi dans l'ascenseur, cette femme avec la robe rouge. Tu vois, Seigneur, cette femme. Je pense que Dieu doit être au courant. Et quand on commence à informer Dieu, c'est qu'il y a un problème qu'on n'a pas bien compris. Qui dira? Que dites-vous? Est-ce que vous croyez que Dieu contrôle tout dans les cieux et sur la terre? Si vous le croyez, dites-lui merci. Je ne comprends pas, mais je te dis merci. La deuxième raison pour laquelle nous devons dire merci à Dieu, c'est que Dieu sait toujours pourquoi il fait quelque chose. Il n'est pas obligé de nous le dire. Quand Dieu a conduit Joseph à partir de cette bagarre avec ses frères, jusqu'à ce qu'il soit élevé sur le trône d'Égypte, Dieu ne lui a rien dit. Pendant 13 ans, Dieu ne lui a rien dit. Il n'est pas obligé de nous le dire d'ailleurs. Est-ce que Dieu est obligé de nous dire quand est-ce que s'achèvera l'épreuve? On aimerait des fois le savoir. Hein, et ça ne serait plus une épreuve. Ça ne serait plus une épreuve, voilà, je suis désolé. Hein. Mais nous avons fait pareil avec nos enfants. Je me souviens une fois, j'avais mené ma fille chez le dentiste, il fallait qu'on y arrache les dents. Je pense parce que cette histoire a vraiment bien fini. Mais on va, papa, on va chez le dentiste. Et qu'est-ce qu'il va me faire? Eh bien, il va te soigner. Alors, vous savez, il ne faut pas mentir non plus. Hein. Et qu'est-ce qu'il va me faire? Eh bien, tu sais, c'est pour ton bien. Mais franchement, c'est une histoire. Et on fait pareil avec nos enfants. On fait pareil avec nos enfants. Eh bien, Dieu, il fait pareil avec nous. Il ne nous dit pas certaines choses. Si Dieu m'avait dit les épreuves que je traverserais dans le ministère à un certain moment donné, est-ce que vous croyez que je serais rentré dans le ministère? J'aurais dit, écoute, Seigneur, franchement, merci. Non, j'aurais dit non, je vous assure. Mais il le sait. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait toujours pourquoi il fait quelque chose. Il est toujours au courant. Dans l'histoire d'Abraham, c'est la même chose. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham? Quand Abraham montait sur le mont Morija, hein, et qu'il portait le bois, et que son fils lui dit, mais il y a le bois, et le sacrifice, où il est? Dieu pourvoira. Est-ce que vous êtes capable de dire ce matin, Dieu pourvoira? C'est dur ce que je traverse, mais Dieu pourvoira. Il est mon Père. Il s'appelle Jéhovah Jiré, il pourvoira. Et Dieu aime. Je sais que c'est peut-être pas facile. Je sais qu'il faut peut-être des années pour arriver à cette attitude de cœur. Peut-être c'est bien pour les nouveaux chrétiens que vous découvriez cela de suite. Mais Dieu aime que nous ayons cette attitude. Je comprends pas. Je comprends pas, mais allez, c'est pas grave, Seigneur. Ce que tu comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Dieu ne l'a-t-il pas dit un jour à un homme qui quand même était appelé par Dieu? Il y a des raisons, elles sont voulues par Dieu, et nous n'avons pas besoin de le savoir. Il faut être capable d'apprendre ça. C'est important, mes frères et sœurs. Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi ce mauvais résultat? Ah, ces examens, je ne m'attendais pas du tout à ça. Seigneur, pourquoi cette mauvaise nouvelle? Pourquoi, Seigneur, ces ennuis, etc. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. L'ennemi, il veut utiliser l'épreuve, lui, pour vous que vous soyez abattus, pour vous soyez découragés. T'as vu où il est ton Dieu, hein? Qu'est-ce qu'il fait ton Dieu, hein? Hein, toi qui avais dit que tu le bénirais en tout temps, hein? T'as beaucoup parlé. C'était du blablabla. Hein? C'est ça que le diable, il attend, qu'on soit découragé. Parce que quand on est découragé, on n'est pas loin de rétrograder. Et alors, à qui on va faire plaisir? À l'ennemi qui attend que ça, qu'on soit défait et qu'on dit « j'en ai marre, j'en peux plus ». Ça peut arriver. Je vous autorise 5 minutes de cafard par jour, c'est tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? C'est qu'il faut, il faut réagir. La réjouissance, c'est le fait de dire « merci ». Oui, je comprends pas. Mais Seigneur, je vais recevoir cette instruction comme l'instruction qui va me donner du repos. Seigneur, je choisis de te faire confiance. Dans Ésaïe, au chapitre 37, nous voyons quelque chose qui est important. Ésaïe 37, verset 26. C'est une question. Vous savez qu'il y a beaucoup de questions dans la Bible. C'est une question qui nous rappelle une grande vérité, ce qu'on est en train de partager. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Jérémie ne comprenait pas, Ésaïe ne comprenait pas, et Dieu dit, attends, je ne subis pas. Ne l'as-tu pas appris? Mes frères et sœurs, il serait temps, alors que le Seigneur Jésus est à la porte, que nous apprenions cela. N'avons-nous pas appris, mes frères et sœurs, que Dieu a tout préparé d'avance? Vous croyez que Dieu se débat dans le ciel parce que ça, il faut faire vite? Comme à la Coupe du Monde de football où les stades ne sont pas prêts, où les logements ne sont pas prêts? Vous croyez que dans le ciel, le Seigneur Jésus s'affaire parce qu'il manque quelques places pour les chrétiens de Toulouse dans la grande maison du ciel? N'as-tu pas appris? Mais l'avons-nous appris? Répondons au Seigneur. Est-ce que nous avons appris que Dieu a tout préparé à l'avance? Vous le croyez ça, mes frères et sœurs? Il a tout préparé à l'avance. Nous, on ne voit pas. Mais parce qu'on ne connaît pas. On voit là, devant, on voit le demain, après-demain, une échéance. Mais il faut voir le plan de Dieu dans tout l'ensemble. Il faut voir l'ensemble. Il faut voir de la Genèse à l'Apocalypse. Quand quelqu'un a lu la Bible avec son cœur et qu'il a compris ce que Dieu a fait, comment Dieu a réglé les choses et comment ça va se terminer, quand quelqu'un dit, oui, si Dieu était tout puissant, je prends un exemple, si Dieu était tout puissant, moi je vous dis que quand vous lisez la Bible, du début à la fin, je peux vous dire qu'on va vérifier que Dieu est tout puissant. Bien sûr, quelqu'un qui lit que quelques événements éparses suite à ces épreuves, il ne comprendra pas. Quelqu'un qui lit toute la Bible avec le cœur ouvert en comprenant comment Dieu n'a pas cessé de réparer, je comprends pourquoi il s'appelle le réparateur des brèches, je vous le dis franchement. Il n'y a pas plus grand spécialiste. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui obéit à sa parole. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Celui qui aime Dieu, il ne dit pas, je vais à l'église tous les dimanches, c'est pas ça. Celui qui aime Dieu, il dit, oh ce matin, j'ai appris que Dieu a tout préparé. J'apprends que dans l'épreuve, même si ça ne me complaît pas, ça ne me va pas trop, il faut que je le remercie. Alors je le remercie. Levons-nous, mes frères et sœurs, le matin en disant, merci au Seigneur. Nous, on voit les choses. D'ailleurs, regardez dans Ésaïe. On en a parlé l'autre jour, je crois, dans une réunion. C'est un verset qui m'a montré, il répond exactement à ce que je vous enseigne. Regardez, c'est vraiment clair. Ésaïe 22, verset 11. C'est la deuxième phrase. C'est pas la première phrase du verset 11. C'est la deuxième phrase. Ésaïe 22, verset 11. Mais vous, regardez bien, vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées. De loin, nous, on ne voit pas le Dieu qui a préparé toutes ces choses. Jésus a dit, mais quand vous verrez ces choses, quand vous les verrez ces choses, sachez que votre délivrance est proche. Nous, on voit les choses. On devrait voir celui qui a préparé les choses. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ça exactement, la spiritualité. Il faut voir ce qui se cache derrière ces choses. Le mauvais chrétien, je m'excuse de parler ainsi, le mauvais chrétien, ou le chrétien charnel, pour être vraiment biblique. Le chrétien charnel, lui, il ne voit que les choses. Il s'irrite de ces choses. Ça me barre le chemin. C'est pas comme ça que je voyais la volonté de Dieu. Dieu m'a fermé la porte. Ça va pas. Et où es-tu? Cette chose-là, elle m'énerve. Le chrétien charnel, il voit les choses. Le chrétien spirituel, il regarde celui qui règne sur toutes les choses. Vous ne regardez pas celui qui a voulu ces choses. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui nous irritent. Je pense qu'on est tous à la même enseigne. Il y a des choses qui nous déplaisent. Mais on devrait rebondir et dire non, je ne comprends pas. Je comprendrai plus tard ou j'aurai même pas l'explication. Ça ne fait rien. Je choisis de lui faire confiance. Le jour où nous serons capables de glorifier Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs, je m'adresse surtout aux bouillants, à ceux qui veulent voir l'œuvre de Dieu se développer, à ceux qui sont intéressés par le salut des âmes. C'est beaucoup plus important même que pour les tièdes. Je vous le dis, là aussi je n'ai pas le temps de l'expliquer. Mais le jour où les chrétiens vraiment seront capables de glorifier Dieu, de le remercier en toutes choses, de chanter ses louanges, de dire avec conviction, Seigneur, c'est vrai, ensemble on va te servir. Je pense qu'on ne sera pas loin d'un réveil. Quand on viendra à la réunion de prière dans cet état d'esprit en disant « On y va pour glorifier Dieu. Oui, il y a des choses difficiles. Oui, il y a des choses graves. Mais notre Dieu règne. » Mes frères et sœurs, souvenez-vous de cela. Comment l'Église peut-elle avancer dans la victoire si elle ne croit pas que Dieu règne? Je me souviens, parce que hier j'étais avec des chrétiens de Groyer, cette église, on est parti d'une vingtaine, et en 3 ans on était 130 dans un village, et on a vécu quelque chose de fort, et je me rappelle au 4e ou 5e culte, j'étais tout jeune, et je disais très mal les choses, quoique j'ai pas beaucoup changé. Mais franchement, je me souviens, il louait le Seigneur pendant le culte. Merci Seigneur, loué sois-tu pour le salut de nos âmes. Merci Seigneur pour ce que tu as fait au calvaire. Et quand le culte se terminait, oh, on ne peut rien faire dans cette ville. Et le dimanche après, j'aurais dit, écoutez, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas aujourd'hui si je le dirai. Je ne comprends pas. Pendant le culte, vous louez Dieu, et après le culte, vous louez le diable. Mais ils se sont regardés tous. Et ils ont bien réagi. Et il n'y a plus eu de décalage entre le culte et l'après-réunion. Et ils ont loué Dieu pendant le culte, ils ont loué Dieu après. Et je crois que ça a plu au Seigneur. Et on a vraiment vu cette œuvre qui était enfermée dans le chagrin, le découragement, se développer parce que les chrétiens qui en voulaient dans cette église, qui étaient restés fidèles malgré tout ce qui s'était passé, eh bien ils ont commencé à louer le Seigneur. Le jour où nous en serons là, je vous le dis, nous ferons échec à Satan. Et bien des épreuves ne dégénéreront pas. Parce qu'il y a des épreuves qui dégénèrent, parce qu'on s'est laissé piéger par les conséquences de ces épreuves. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des épreuves, on pourrait de suite les bloquer et dire non, je ne combattrai pas contre la chair et le sang. Non, je refuse. Seigneur, je te glorifie. Et vous savez combien de fois Dieu a apprécié cette attitude de cœur. Des fois, on s'est plaint, on a été voir, j'en ai marre, et je ne comprends pas. Et l'ennemi s'est frotté les mains. Celui-là, il est découragé, il ne va pas aller loin. Oui. Beaucoup d'épreuves ne dégénéreraient pas si nous glorifions Dieu. Vous savez, si c'est écrit, c'est que c'est important. Amos, chapitre 3, verset 6. Amos, chapitre 3, c'est un verset intéressant. Là aussi, deux questions. Deux questions auxquelles il faut répondre. Deux questions. Amos 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Mais c'est cette question qui nous intéresse. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et au verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu peut-il révéler des secrets? Alors, Dieu peut-il révéler ses secrets? Oui, à ceux qui vivent dans la communion avec lui. Ses serviteurs, ce sont pas, c'est pas les pasteurs, les serviteurs, ce sont tous les chrétiens qui vivent dans la communion avec lui. Il y a des choses cachées qui sont à Dieu. Dieu n'est pas obligé de nous les dévoiler, mais Dieu peut nous révéler certaines choses. Dieu peut nous donner une explication spirituelle. C'est vrai, comme je le dis tout à l'heure, j'ai peut-être pas besoin de tout savoir, j'ai peut-être pas besoin de savoir quand l'épreuve va se terminer, j'ai peut-être pas besoin de savoir quand est-ce que je retrouverai un emploi, etc., etc. Mais je peux croire que dans l'épreuve, Dieu peut se révéler et me montrer certaines choses. J'ai souvent parlé de l'histoire de Job. Job, dans l'épreuve, vous avez vu, à un moment donné, il ne fait qu'une chose, poser des questions à Dieu. Vous avez lu le livre des Job. Il ne fait que ça. Il pose des questions à Dieu. Et Dieu le laisse parler. Parce que Dieu nous laisse parler. Il pose des questions. Lisez les derniers chapitres. Il pose des questions. Et un jour, c'est Dieu qui va poser, je crois qu'il y a une centaine de questions. Dieu va poser à Job peut-être le double de questions. Vous l'avez lu le livre de Job, hein? Sur plein de choses. Et pourquoi l'hippopotame fait ça? Lui venait de perdre sa femme, ses enfants, ses biens, ses maisons, et Dieu va lui parler de l'hippopotame. Job, est-ce que tu es au courant pourquoi l'autruche a été privée de sagesse? Il y a peut-être une explication là. Pourquoi quand elle a peur, elle met la tête dans le sable? Je pense qu'il y a quand même une image qu'on n'a pas le temps de développer, bien entendu. Est-ce que tu sais comment la biche, elle m'ébat? Et il va poser une centaine de questions. Dieu, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? On pose des questions à Dieu, Dieu nous pose deux ou trois fois plus de questions. Moi, je continue et je me dis, bon, tu arrêtes de poser des questions, parce que plus tu as des réponses, plus tu as des questions. C'est pas vrai, ça nous mélange un peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est sérieux, cette affaire. Dieu ne se moque pas de nous, le Seigneur. Dieu ne s'amuse pas avec notre santé, avec nos nerfs. Est-ce que vous croyez que Dieu s'amuse avec vous? Nous sommes ses enfants. Et on pourrait dire, moi je vous avoue que le livre de Job, pendant des années, je me suis gratté la tête. C'était un combat spirituel, vous le savez, entre le diable et Dieu. Ça se passait dans l'invisible. C'est comme si Dieu disait à Job, mais Job, tu vois, autour de ta ferme, tu vois, tu ne sais même pas comment le zèbre, il fait ceci. Tu ne le sais pas. Tu n'es pas capable de me répondre. Si tu n'es pas capable de comprendre les choses les plus simples qui se passent là autour de ta ferme, comment tu peux comprendre? des choses qui se passent dans l'invisible. Vous comprenez? Et nous ne sommes pas capables de tout comprendre. On comprend pas, le combat spirituel. Pourquoi telle et telle personne vive telle et telle épreuve? On n'est même pas capable de comprendre pourquoi il y a ceci, il y a cela dans notre maison. Hein? Est-ce que vous comprenez comment les mères font leur nid? Vous avez vu comment ils font leur nid? J'en ai trois dans ma haie chez moi, je les regarde. Est-ce que vous pouvez expliquer comment tel animal fait ça là autour de votre... Est-ce que vous pouvez expliquer? Mes frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Si on n'est pas capable de comprendre le plus simple qu'on voit, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Mais est-ce que ça valait la peine que Job mette sa confiance en Dieu? D'ailleurs, il n'a pas dit, lui, dont Dieu avait dit à Satan, « T'as vu mon serviteur Job? Comment il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal? Il n'y a personne comme lui sur la terre? » Et pourtant, cet homme, après l'épreuve, va dire, « Mais j'ai parlé sans comprendre des merveilles de Dieu. Je mets sur la bouche, ma main sur la bouche et je me tais et je me repens. J'avais entendu parler de Dieu. » Enfin, il le connaissait. Moi, je vous dis qu'il le connaissait. Et pourtant, il dit, « Mais je ne le connaissais pas. J'avais entendu parler de lui. Mais maintenant, mon œil le voit. Il est derrière tout ça, derrière l'épreuve que tu traverses, mon frère. Mais Dieu, il est là. Si vous avez un jour donné votre cœur à Jésus, si vous êtes passé par les eaux du baptême, Dieu est derrière vous. » Il est là, vous comprenez pas? Oui, vous comprenez pas. Et si vous venez en parler avec moi, on comprendra peut-être pas. Mais Dieu règne. Il règne sur toute chose. Il est assis sur son trône de gloire. Et bientôt, on va voir que Dieu règne. Quand il va nous enlever pour être avec lui aux noces de l'agneau, quand il va déverser sa colère sur la terre, oui, Dieu va montrer qu'il règne. Il règne, mes frères et sœurs, il règne. Il vous faut lui faire confiance. Si nous voulons une église qui connaisse un embryon de réveil, si nous voulons une église qui véritablement glorifie son nom, il faut le glorifier. Si l'enfant de Dieu ne le fait pas, mes frères et sœurs, mais qui va le faire? Qui va le faire? Si les chrétiens nés de nouveau, je ne parle pas des chrétiens de nom, si les chrétiens nés de nouveau ne mettent pas sa parole en pratique, si les chrétiens nés de nouveau, quand ils lisent, quand vous verrez ces choses, relevez votre tête, votre délivrance, elle est proche. Relever la tête, c'est pas mettre le nez en l'air. Relever la tête, c'est dire, je te fais confiance, j'extériorise ma joie, je choisis de te faire confiance. Relever la tête, ça veut dire, je reprends courage. C'est ça le secret des enfants de Dieu, ils ont confiance en Dieu. On a chanté des cantiques merveilleux. Dieu est réel, réel pour moi. On peut me rire, me mépriser, on peut me fuir. Mais vous avez vu comment on a chanté ça? Avec quel élan? Ils n'ont pas bien chanté, M. Barcourt. Hein? On peut me rire, on peut me mépriser, on peut me fuir. Maman, donnez. Et demain? Alors, tu étais à l'église hier? Hein? Tu as été voir ton curé ou ton pasteur? Qu'est-ce que vous allez dire? Ou est-ce que vous allez dire merci? Tout est là. C'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que vous direz merci? Qui continue? Heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Moi, quand on, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est une réaction saine. C'est un peu tiré peut-être par les cheveux, mais moi, quand on se moque de moi, c'est quand qui continue. Je le pense. Je ne sais pas si c'est bien. Je ne suis pas sûr que ce soit intelligent, mais je le fais. Heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous. Merci, Seigneur. Parce que si j'étais comme eux, alors là, on rirait ensemble. Mais je préfère être dans le bon camp. Merci, Seigneur. Oui, on peut me rire. Ce n'est pas marrant sur le moment, j'en conviens. Mais je crois qu'au jour dernier, au jour où on va se présenter devant le Maître, on ne regrettera pas d'avoir un jour choisi de dire, je choisis de le glorifier. Dieu est un Dieu sage. Il sait ce qu'il fait. Moi, je vous le dis, mes frères et sœurs, les véritables chrétiens, ils ont confiance en Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait terminer en chantant ce chœur Majesté? Louez sa majesté. Il règne sur ces sujets. Il ne règne pas dans une église où on se plaint. Je le dis, hein. Il ne règne pas dans une église où on gémit, où on râle, où on boude. Il règne. Il règne pas sur le péché. Quand on se plaint, on pêche. Il règne dans une église où on dit « Tu es le Dieu du ciel et de la terre ». Alléluia.